Philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard le 23 avril 1990.
Nous allons terminer ces questions sur l'amour, passion du théologien. Alors nous avions essayé de comprendre les effets de l'amour, question 28. L'union est-elle l'effet d'amour? L'inhérence mutuelle, l'extase et le zèle. Alors je vais voir maintenant l'article 5. L'amour est-il une passion qui blesse celui qui aime? Alors, faites appel à vos expériences. 7 contre 1. Denis écrit que tous les êtres s'aiment d'un amour qui contient, c'est-à-dire qui conserve. L'amour n'est donc pas une passion qui nuit, mais bien qui conserve et perfectionne. Nous l'avons dit, l'amour signifie une certaine adaptation de la puissance. Certaine adaptation de la puissance affective à quelque bien. Or, rien ne s'abîme pour s'être adapté à ce qui lui convient. Il s'enrichit plutôt, si c'est possible, et s'en trouve mieux. Au contraire, ce qui s'adapte à ce qui ne lui convient pas en est gâté et détérioré. Soulignez ça. L'adaptation aujourd'hui, hein. Comme si l'adaptation en soi était bonne. Ça dépend à quoi on s'adapte. Si on s'adapte à quelque chose qui est dans le sens profond de notre bien, très bien. Si on s'adapte à quelque chose qui est inférieur à nous, attention, on risque de se gâter. Les apôtres se sont adaptés, après la multiplication des pains, à l'euphorisme de tous ceux qui ont pris ces petits pains chauds, donnés par le Seigneur. Et à ce moment-là, ils se sont rappelés la réminiscence de la manne. Et ils ont voulu proclamer Jésus roi. Et les apôtres se sont laissés contaminer. Et on peut s'adapter en se laissant contaminer. Et ça, saint Thomas le dit d'une façon farouche. Quod vero coaptatur ad aliquid qui non est sibi conveniens, ex hoc ipso leditur et deterioratur. Ce qui s'adapte à ce qui ne lui convient pas et en est gâté et détérioré. Vous vous adaptez à un monde sécularisé. Eh bien, vous vous gâtez et vous vous détériorisez. On n'a pas s'adapté à un monde qui est mu par le démon. On s'adapte à ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Et c'est pour ça que l'inculturation, il faut toujours faire grande attention. Si vous le considérez comme une adaptation, faites attention. Vous adaptez à ce qu'il y a de bon dans le sens du mystère de la rédemption et de l'incarnation. Il y a un discernement à faire. L'adaptation pour l'adaptation. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. En fonction d'adaptation, vous fréquentez un monde qui n'est plus celui de Dieu, qui n'est plus celui de l'homme, qui devient inférieur à l'homme, qui oublie complètement la finalité de l'homme, qui oublie complètement ce qu'est la noblesse de l'amour, la noblesse de l'esprit. Eh bien, vous vous abîmez. Mais il faut le savoir. Alors c'est vrai, de temps en temps, le Seigneur nous demande de nous approcher du démon. On sait qu'on s'approche du démon. La mère admirable des sept frères martyrs, de ses sept fils martyrs, elle s'approche d'Antiochus pour pouvoir atteindre le petit dernier, le petit Benjamin. Elle s'approche d'Antiochus. Elle le sait et elle le fait avec une ruse divine. On ne s'adapte pas du tout. On roule l'autre. C'est pas l'adaptation. Elle a roulé Antiochus, le faisant croire qu'elle était d'accord avec lui. Puis dès qu'elle est près de lui, parlant le langage de ses pères, elle se met à lui rappeler l'exigence profonde de sa foi. Alors de temps en temps, c'est vrai, mon Dieu nous demande d'être rusé auprès des journalistes et d'arriver à être plus rusé que et les rouler. Il faut pouvoir le faire. On ne peut pas le faire tout le temps. Oui, alors voilà, c'est un tir très précis. L'organe est blessé par un excès de couleur, par par un excès de lumière. C'est la même chose quand vous mettez la main sur quelque chose qui est trop chaud. Votre toucher est abîmé. Quand vous prenez un aliment qui est brûlant, sans le savoir, votre palais est brûlé. Alors, c'est la brûlure, la blessure, ex parte matériae. Parce que justement, lorsqu'il s'agit des passions, des sensations, il y a un organe. Ça ne peut jamais arriver pour le point de vue purement spirituel. Parce qu'il n'y a plus de passion. Contempler Dieu ne vous fera jamais voir 36 chandelles après. Jamais, jamais. Jamais. Quand vous contemplez Dieu, vous aurez le désir de le contempler toujours plus. Parce que l'amour dit, parce que la bonté divine ne peut pas détruire, ne peut qu'ennoblir. Mais si vous aimer le petit chien, le petit chat, avec un amour trop passionné, ce qui peut arriver, vous vous abîmez. Et vous devenez petit chat, petit chien. Jusque dans votre visage. C'est vrai, ça. Parce que l'amour adapte. L'appétit est changé. Première objection, la langueur est une sorte de blessure. Or, l'amour est source de langueur. Selon les mots du cantique, soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des pommes, car je languis d'amour. Ce si beau texte de la, n'est-ce pas, Fulgite me floribus, stipate me malice, quia amore longueo. Je languis d'amour. L'amour est donc une plaie, est donc une passion qui blesse. Réponse de saint Thomas aux trois difficultés. Donc il répond aux trois, alors il faut lire les trois. Donc je languis d'amour. La liquéfaction est une sorte de dissolution. Or l'amour liquéfie. Comme il est écrit, mon âme s'est liquéfiée lorsque mon bien-aimé a parlé. C'est encore le cantique. Oui. Et troisième affection qui est encore dans le cantique. La ferveur désigne un certain excès de chaleur de nature à corrompre. Or, la ferveur a pour cause l'amour. En effet, Denis signale parmi les propriétés de l'amour des séraphins qu'il est chaud, pénétrant et plus que fervent. Et dans le cantique, il est dit aussi de l'amour que ses ardeurs sont des ardeurs de feu et de flamme. L'amour est donc une passion qui blesse et qui corrompt. Vous voyez les trois corruptions, les trois blessures, plus exactement, qui sont faites du cantique des cantiques. Hein. C'est très beau. Comme commentaire du cantique des cantiques. Hein. Soutenez-moi parce que je languis. Vous voyez quelqu'un qui commence à languir. Alors, il aime. Il languit. Et Agathon, dans le banquet de Platon, il languit. Il faut beaucoup de coussins parce qu'il languit d'amour. Ah, laissez-moi, je languis d'amour. On voit très très bien ça. On a envie de prendre le martinet à ce moment-là. Pour montrer que l'amour, c'est pas ça. Deuxièmement, la liquéfaction. Ouais, c'est vraiment, c'est l'amour romantique, ça, vous voyez ça, c'est ça. On a tout à fait cette impression-là. Et puis alors, la chaleur, les ardeurs, ça c'est déjà plus différent. Les ardeurs sont des ardeurs de feu et de flamme. Ça peut se comprendre, de feu et de flamme. Alors, aux trois difficultés, voilà la réponse de saint Thomas. Il faut répondre que l'on peut attribuer à l'amour quatre effets immédiats. Il reprend tout. Hein. La liquéfaction, la jouissance, la longueur et la ferveur. Voilà les quatre. facilement pénétrer. C'est dur, comme de la glace. Au contraire, l'amour dispose la puissance affective à une sorte d'accueil du bien-aimé qui se trouve ainsi dans l'aimant, comme nous l'avons vu. On voit donc que la congélation ou dureté du cœur est une disposition qui répugne à l'amour, tandis que la liquéfaction implique un certain attendrissement qui permet au cœur de s'offrir à la pénétration de l'aimé. Donc on voit bien, et ceci selon tous les niveaux, le niveau passion et le niveau spirituel. C'est un effet propre de l'amour, la liquéfaction. Alors est-ce que la liquéfaction, est-ce que ça blesse ? Non. C'est l'accueil. Être accueillant pour quelqu'un ne nous blesse pas. Mais ce qui est vrai, c'est que l'amour désarme. Oui, lorsque vous êtes armé en vous opposant à quelqu'un, l'amour enlève ça. Alors ça vous désarme et ça vous rend accueillant. La ville fortifiée jette de la poix sur les murs. Celui qui aime est désarmé. Bien qu'il ait dit que le frère qui aime son frère est comme une forteresse, ça ne veut pas dire qu'il jette de la poix sur tous les autres, mais ça veut dire tout simplement que le frère est uni à son frère, devient fort comme une forteresse. Et alors, si l'aimé est présent et possédé, c'est la joie ou la jouissance. S'il est absent, il en résulte les deux autres passions, la tristesse de l'absence ou langueur. C'est la tristesse surtout que Cicéron appelle maladie et un désir intense de joindre l'aimé qui s'appelle ferveur. Ces quatre effets sont produits par l'amour considéré formellement selon le rapport de la puissance affective à son objet. Mais dans la passion de l'amour, d'autres effets s'en suivent proportionnés au premier et constitués par une modification organique. Donc l'amour peut blesser quand il s'agit de la passion. L'amour spirituel ne blesse pas. Mais il liquéfie. Il le donne la joie. Il donne la langueur et la ferveur. La langueur, c'est la tristesse. Le bien-aimé n'est pas là. Il est absent. Vous retenez bien ces quatre effets. Il faut souvent y songer. Parce que c'est très fort, ça. La raison même d'aimer donne en nous ses effets. Liquéfaction, c'est Cicéron qui dit ça. Hein. Liquéfaction, jouissance, joie, langueur et ferveur. Mais c'est très étonnant que saint Thomas répond au cantique des cantiques avec Cicéron. C'est assez étonnant. Hein. Et vous voyez que cette réponse permet de comprendre le cantique des cantiques, ne pas le comprendre d'une façon romantique. Parce qu'on peut comprendre le cantique des cantiques de façon romantique. Alors ça devient absurde. Vous déclamez le cantique des cantiques d'une façon romantique, avec des yeux blancs. Ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Alors on plane au bout d'un certain temps. Mais c'est pas ça du tout le cantique des cantiques. Le cantique des cantiques, c'est au contraire. Cette objection se fonde sur l'amour qui est une passion existant dans l'appétit sensitif. Or, nous parlons ici de l'amour au sens large. Ah, vous voyez, alors ça c'est quand très intéressant. Saint Thomas, à la fin de la question, nous dit que dans ce traité des passions, il parle de l'amour au sens large. Il aurait pu le mettre dès le début. Hein. Est-ce que c'est le traité des passions, quand même? C'est le traité des passions de l'âme. Alors, c'est très curieux. Alors, ça fait beaucoup réfléchir. Pourquoi, quand il s'agit de l'amour, saint Thomas ne peut pas parler uniquement de la passion? Ce qu'il le dit ici, cette objection se fonde sur l'amour qui est une passion existant dans l'appétit sensitif. Or, nous parlons ici autem nos loquimur nunc de amore communiter accepto. Or, nous parlons ici de l'amour au sens large, selon qu'il comprend sous lui l'amour intellectuel. Amorem intellectualem, rationalem, animalem, naturalem. Saint Thomas, là, nous donne une division capitale qu'il ne faut jamais oublier, qui est au fond les diverses modalités même de l'amour, et nous les montre bien ici. L'amour intellectuel. Intellectuel, l'amour rationnel. Il traduit ça, l'amour rationnel. Ses beaux yeux, C'est romantique. C'est sûr. Ce que le jour où ses yeux commenceront à pâlir, j'aimerais plus. Alors, je chercherai quelqu'un qui renouvelle ses yeux. Ça explique des tas de divorces. Amour romantique. La beauté des yeux. Alors, deuxième objection. L'appétit est le principe du mouvement et de l'action chez tous les animaux, comme le montre Aristote. Si donc on fait tout par amour, les autres passions de la partie affective sont superflues. Réponse de saint Thomas. C'est de l'amour que naissent le désir, la tristesse, le plaisir, et par suite toutes les autres passions. Faut jamais oublier ça. Ex-amore sum sicut iam dictum est causantur et desiderium et tristitia et delectatio et per consequens omnes alliae passiones. Donc vous voyez, je peux dire que l'amour passionnel a donc toutes les modalités des passions. Comme il y a 11 passions. Il y a donc 10 visages de l'amour. Au niveau passionnel, 10 masques de l'amour. C'est très très intéressant, vous voyez. Comme il y a les 10 prédicaments, il y a les 10 visages de l'amour. Les 10 prédicaments, c'est les 10 visages de l'être. Et les passions sont les 10 visages de l'amour. Alors, ne faites pas un parallélisme matériel univoque. Vous comprenez pourquoi il y en a 10. Pourquoi il y a 10 curieux ces choses-là. C'est de l'amour que naissent le désir et par suite toutes les autres passions. Il s'ensuit que toute action qui procède d'une passion quelconque procède aussi de l'amour, comme de sa première cause. Comme de sa première cause. Exprima causa. Et l'analogie avec la première cause au niveau de l'être, qui est Dieu. L'amour joue au-dedans de nous, au niveau psychologique, comme une déesse. Cause tout. Comme un Dieu. Les autres passions ne sont donc pas superflues. Ce sont des causes prochaines, proximées, des causes immédiates. La haine elle-même est causée par l'amour, comme nous dirons bientôt. Et le bientôt, c'est la question 29 de la haine. Alors, on va voir simplement, mais très vite. Le mal est-il la cause et l'objet de la haine? Je ne veux pas voir avec vous traiter de la haine. Parce qu'on m'a fait remarquer qu'il était grand temps d'avancer. Alors, mais simplement, c'est important de voir comment le mal, la haine, qu'est-ce que c'est que la haine? La haine est le contraire de l'amour. Ça vous dit ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la haine. Or, l'objet de l'amour est le bien. C'est donc l'objet de la haine et le mal. L'appétit naturel découlant d'une certaine perception non conjointe au sujet, il semble que l'on puisse assimiler l'inclination de l'appétit naturel à celle de l'appétit animal, qui, lui, est lié à une perception conjointe, comme nous l'avons déjà dit. Or, dans l'appétit naturel, nous voyons manifestement que si tout être se trouve par amour naturel, en consonance naturelle ou en harmonie, avec ce qui lui convient, de même à l'égard de ce qui s'oppose à lui et le corrompt, tout être manifeste une dissonance naturelle, qui est la haine naturelle. Ainsi donc, dans l'appétit animal ou dans l'appétit intellectuel, l'amour est une espèce de conscience. consonance de l'appétit avec ce qui est saisi, comme lui convenant une consonance. Consonantia. Une adaptation. Une transformation intérieure qui nous met à l'unisson. La haine, au contraire, est une sorte de dissonance de l'appétit à l'égard de ce qui est perçu comme hostile ou nuisible. Or, tout ce qui convient en tant que tel en raison de bien, pareillement, tout ce qui s'oppose en tant que tel en raison de mal, par conséquent, de même que le bien est l'objet de l'amour, ainsi le mal est-il l'objet de la haine. Le mal nous fait frémir. La haine est intentionnelle comme l'amour. Et la haine met en nous une espèce de répulsion. Et la première objection, l'être en tant qu'être, la première réponse à la première objection, n'exprime rien de contraire, mais plutôt de consonant, car toute chose s'harmonise dans l'être. Omnia conveniunt inente. Toute chose s'harmonise dans l'être. C'est pour ça que le bien et l'être sont convertibles. Mais l'être en tant que tel être déterminé se trouve en contrariété avec un autre être déterminé. À ce point de vue, un être est haïssable pour un autre et mauvais, non en soi, mais par rapport à cet autre. On n'est jamais mauvais universellement. C'est toujours par rapport à tel ou tel. Tandis qu'on peut être bon universellement. Une seule et même chose peut être aimable ou haïssable pour des êtres différents, selon l'appétit naturel du fait qu'elle convient à la nature de l'un et répugne à celle de l'autre. Par exemple, la chaleur qui convient au feu répugne à l'eau. Dans le domaine de l'appétit naturel, la cause de cette diversité est que la même réalité est appréhendée par l'un sous la forme de bien, par l'autre sous la forme de mal. Pour certains, que la fenêtre soit ouverte est un bien, et pour d'autres, que la fenêtre soit ouverte est un mal. Alors vous aimez que la fenêtre soit ouverte, ça vous est convenable, et vous haïssez que la fenêtre soit ouverte parce que ça vous est un mal. Et c'est ainsi qu'entre des concitoyens d'une même communauté qui habitent dans le même local, une haine commence à s'élever parce que celui qui aime les fenêtres fermées les ferme tout le temps et l'autre arrive après, se trouve devant la fenêtre fermée alors que lui il a une haine contre la fenêtre fermée et cette haine contre la fenêtre fermée se projette sur celui qui aime les fenêtres fermées. C'est comme ça que ça se passe. Analysez un peu. C'est très très curieux. La haine est-elle causée par l'amour? Au dire de saint Augustin, toutes les affections sont causées par l'amour. Donc aussi la haine, qui est une affection de l'âme. L'amour, avons-nous dit, consiste en une certaine convenance de l'aimant à l'aimé. Vous voyez, convenance, tous les mots de saint Thomas, conveniencia. Et le mot précédent, c'était justement le fait qu'il avait montré la consonance. La consonancia. Ici, conveniencia. Or, en toute chose, il faut considérer ce qui convient avant de considérer. ce qui répugne. Car si une chose répugne à une autre, c'est parce qu'elle est de nature à corrompre ou empêcher ce qui convient à cette dernière. Il s'ensuit nécessairement que l'amour précède la haine, et que rien ne peut être objet de haine, sinon parce qu'il est contraire au bien que l'on aime. C'est ainsi que toute haine est causée par l'amour. La haine n'est jamais première. Alors voyez, il y a là quelque chose de très intéressant qu'il faut bien comprendre. Si la modernité, c'est le primat de la négation sur l'affirmation. La modernité, c'est le primat de la haine sur l'amour. Et je l'ai déjà constaté, ça. Il y a quelques années, faisant un petit cours comme ça à des jeunes sur les passions, amour et haine, quand j'ai dit que l'amour était premier et que la haine était seconde, je me souviens de quelqu'un qui a levé la main et qui a dit non, c'est la haine qui est première. Et c'était dit avec violence. C'est très très curieux, c'est très intéressant. Vous voyez ? Parce qu'il y a un parallélisme entre les deux. Le primat de l'affirmation fait le primat de l'amour. Le primat de la négation fait le primat de la haine. Et ça, c'est la conséquence d'une philosophie qui met la négation en premier lieu. Ça engendre le primat de la haine. Et quand il y a un primat de la haine, alors ça conduit à une anarchie absolue. Ça peut pas conduire à autre chose. Ça conduit à un primat des oppositions violentes les uns par rapport aux autres. Cet article-là, ce point de vue-là est très intéressant, parce que saint Thomas nous montre comment la haine est engendrée de l'amour. Et au point de vue passionnel, c'est très vite fait. On aime par la passion, en voulant posséder. Et quand celui qu'on veut posséder se soustrait, alors à ce moment-là, la haine commence à naître. Et les haines, quelquefois, d'une violence extraordinaire, c'est lorsque la haine apparaît avec cette violence qu'elle écrase tout le reste. Alors on dit que c'est premier. Alors qu'en réalité, il y a toujours un premier amour déçu. Déception dans l'amour conduit à la haine. La déception dans l'amour passionnel, pas dans l'amour spirituel. Je prends la première objection. Les choses qui se distinguent par opposition coexistent naturellement, est-il écrit dans les prédicaments. Ah, vous voyez, des prédicaments. Or, l'amour et la haine, étant contraires, se distinguent par opposition. Ils sont donc coexistants selon la nature, bien loin que l'amour soit la cause de la haine. Et l'amour et la haine sont contraires, donc, sont simultanés. Et la troisième objection, la haine ne précède-t-elle pas l'amour ? Elle implique en effet l'éloignement du mal, tandis que l'amour est l'approche du bien. Ne faut-il pas d'abord s'éloigner du mal ? Certaines spiritualités sont comme ça. Luttez contre vos défauts, en premier lieu. Puis quand vous serez sage, on verra. Le noviciat pourra s'ouvrir. ainsi deux espèces d'animaux ou deux espèces de couleurs. Ça, c'est très important par rapport à l'hégélianisme. Puisque c'est les contraires qui s'unissent. D'autres se correspondent à titre égal au point de vue de la raison. Mais dans la réalité, l'une précède et cause l'autre. Comme on le voit pour les espèces des nombres, des figures et des mouvements. D'autres, enfin, ne coexistent ni dans la réalité, ni dans l'esprit. Comme par exemple la substance et l'accident. En effet, la substance est réellement cause de l'accident. Et au point de vue de la raison, l'être se dit, à titre premier, de la substance, puis de l'accident. Car on ne l'attribue à celui-là, à celui-ci, qu'en tant qu'il existe dans la substance. Or, l'amour et la haine sont sur le même pied au point de vue de la raison, mais non dans la réalité. Rien n'empêche donc que l'amour soit cause de la haine. Ça, c'est très très joli. Et c'est très intéressant de voir ça. Parce que là, vous expliquez pas mal de choses de l'hégélianisme. Vous voyez, l'ontologisme fait qu'on ne distingue plus entre la raison et la réalité. Alors, ici, on distingue, au point de vue de la raison, l'amour et la haine sont